Radio Barque, deuxième partie, prévoit, Michel, que tu nous entretiennes sur une, dis-tu, montée des eaux au Grand Castelloup.
Oui,
le Grand Castelloup.
Alors, la montée des eaux, c'est une image. C'est pour dire montée de la pression, en fait, notamment de la région, qui rend Didier Mouly, qui la rend saumâtre, hein, quoi, comme on dit, en fait, vulgairement parlant. C'est-à-dire que bon, il est pas très content, et pour cause.
Alors,
Et pour cause. Alors, je vais justement, commencer par ça. Le Grand Castelloup, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien domaine agricole qui est situé en bord de la Robine, bord de l'étang de Bages-Périllac. Précisé Bages-Périllac et non pas Bages-Sivan, comme le faisait remarquer l'autre jour,
la mairesse de Périllac. Le maire de Périllac. Hein,
donc, Bages-Périllac, et, qui est quasiment au débouché, je parle de ce Grand Castelloup, de l'ancien port antique de Narbonne. Donc, un endroit au milieu de marais, en fait, un paysage typique, effectivement,
petite
de marais.
Petite Camargue, disent certains.
Petite Camargue, oui, qui est un paysage magnifique, en face de Bages, quoi. En plus, c'est merveilleux comme endroit. Donc, ce Grand Castelloup est propriété aujourd'hui du Conservatoire du Littoral, dont le métier est de préserver, effectivement, ces espaces. Donc, il achète des espaces. Et le Conservatoire a donné, en fait, comme souvent il le fait dans d'autres espaces, là, en l'espèce, à la ville de Narbonne, dont nous avons l'adjoint, la maîtrise d'ouvrage d'une opération pour redynamiser ce domaine agricole et y faire deux choses, trois choses. Un, y déménager la maison du parc qui est à Sigean aujourd'hui pour l'installer au Grand Castelloup. Avec tous ses fonctionnaires, ils ont une quarantaine à peu près, donc c'est pas rien, quoi.
Oui, un autre déménagement.
Deux, y faire un musée écotouristique, en fait, hein, qui parle du paysage, en fait, bon, hein, typique de ce coin-là et de la Narbonnaise, et auquel serait adjoint aussi, puisqu'il existe déjà, un atelier de charpente marine. Donc trois éléments de cet ensemble.
Avec Monsieur Pajot.
Avec Monsieur Pajot, donc le fils du père qui a été l'initiateur de ce genre que j'ai connu il y a fort longtemps. Quand il a saigné dans une école de Corse Mais voilà. Et donc, au coût de l'opération, 6,6 millions. C'est pas rien, quoi, hein, 6,6 millions. Alors, ce que les Narbonnais ne savent pas quand même, quoi, hein, c'est que le principal financeur de cette opération, puisque nous sommes à quelques semaines d'élections européennes, le principal financeur de cette opération, c'est l'Europe. Ouais. C'est l'Europe qui met 2,3 millions. En fait, une paille, quoi, hein, 2,3 millions. La région de derrière met 1 million et quelques. La ville, 750, si j'ai bonne mémoire. Je parle de mémoire, là, donc, hein, à peu près. Et pareil pour le conservatoire. Et puis, petitement, arrive derrière le département et le Grand Narbonne pour 5% du budget. Donc, je laisse aux auditeurs le soin de faire l'opération. Donc, 6 millions. Le problème, aujourd'hui, c'est que, au fil du temps, le budget a été revu. Alors, j'ouvre une parenthèse. Le maître d'œuvre a déjà été choisi par la ville de Narbonne, hein, le groupement d'architectes qui travaille sur ce projet. Donc, ça a avancé, quoi, hein. Et puis, aussi, des designers, en fait, des muséographes qui travaillent, etc., etc. Donc, on avance. Sauf qu'on avance lentement. Et là, il y a quelques semaines, pam!
Un pépin,
une avanie budgétaire, en fait. Elle n'est pas grosse, l'avanie, hein, mais bon, c'est pas un gros trou dans le budget. Mais enfin, il y a quand même une petite fuite qui bloque effectivement l'avancée des travaux.
Un financement annoncé.
Il manque 180 000 euros.
Qui n'arrive pas.
180 000 euros. Et la vice-présidente de la région qui est en charge de cette affaire-là, hein, qui tient beaucoup, en fait, à sa maison, notamment de la Narbonnaise, du parc, à cet endroit, qui est une conseillère régionale des Pyrénées orientales, l'Angeline, je crois, si j'ai bonne mémoire, Madame l'Angeline, bon, a envoyé récemment, si je suis bien informé, quoi, hein, une lettre au président du département, Viola, et au président du Grand Narbonne, mais écoutez, nous, on a fait des efforts, hein, déjà, pour augmenter notre part relative dans le budget depuis quelque temps. Il serait bien que vous deux, vous fassiez un petit effort et que donc vous mettiez cette petite rustine, hein, pour bloquer la fuite d'eau budgétaire, hein, chacun, donc 90-90, quoi. C'est pas ça. On en est là, quoi.
Mais il y avait un engagement et sur ce financement ou...
Non, mais il y avait un engagement au départ sur le financement, sur le budget bon initial, qui au fil du temps a un peu ripé, et puis il manque ces 90
donc
millions
il,
pour chacun.
Il faut
quoi.
Une petite rallonge.
Il faut une petite
rallonge,
une petite rustine. Et ça bloque, et le maire de Narbonne, qui est dans son rôle, quoi, dit, mais attendez, je pars, bon, voilà, il manque 180 000 euros, moi je ne vais pas engager les travaux, allez, plus avant, si je n'ai pas de garantie sur ces 180 000 euros-là, en fait, hein, c'est pas moi moi qui, à la fin, bon, vais payer l'addition si le budget dérape. Donc, on en est là. Et apparemment, si je suis bien immolé, si je suis bien informé, on passera la métaphore. Mais c'est galère, quoi. Hein, galère pour 180 000 euros. Hein, donc, ça, on n'est pas d'accord, quoi. Bon, on rouspète, fait-on. Bon,
alors, c'est bon, ça fait des bulles, 180 000 quoi, hein, à part égale département
90,
et
90.
90.
Donc, rien du tout, quoi, en fait. Hein. Alors, ça me fait penser, d'ailleurs, entre parenthèses, à l'ensemble Narbovia, le Clos de la Lombarde, quoi. On dit, bon, ça coûte trop cher, quoi. La Lombarde, il faudrait, pour couvrir ça, à peu près 2 millions, 160 millions d'euros. Bon, c'est epsilon, quoi. Je veux dire, si on avait voulu vraiment, effectivement, intégrer la Lombarde à Narbovia, on aurait pu le faire sans crier au scandale, au scandale du dépassement budgétaire. Il est déjà largement dépassé. Et puis, il manquera la passerelle qui est. Enfin bon, on va pas revenir sur la chronique que j'ai fait précédemment. Donc ce chantier ne sera pas fini, fait, comme la cathédrale. Bon, pour en revenir fait, à notre Castelloup, on en est là, quoi. On en est là. Alors, c'est d'autant plus embêtant que la région est aussi gestionnaire, hein, gestionnaire du plan européen, du programme opérationnel européen 2014-2020. On est en 2019, quand même. Hein. 2020, c'est bientôt. 2014-2020, programme qui est la source de financement des 2 millions, enfin des 2 millions de l'Europe, qui sont gérés par la région, ouais, aussi.
Est-ce que ça signifie que ce financement peut tomber s'il est
à l'eau? Enfin, oui, il peut tomber à l'eau si effectivement, voilà, dans l'année prochaine, l'opération ne s'accélère, enfin, n'avance pas, quoi, si la rustine n'est pas mise. Alors, si avec cette question de rustine encore, passe, enfin, quand même, 90 moments, c'est pas la mer à boire, si je puis dire, donc on devrait pouvoir assez vite le trouver. Mais là où je suis un peu inquiet aussi, mais bon, c'est Michel Santo qui parle, c'est un ancien techno, donc on va encore dire, bon, il donne son nom, mais c'est l'expérience qui m'amène à faire ce genre de remarques. C'est que, on ne sait pas du tout quelle va être la structure de gestion de cet ensemble, qui est assez quand même hétéroclite dans sa composante. Enfin, une maison administrative, si je puis dire, et puis un musée écotouristique. Donc,
oui, parce
qui
que
va gérer ça?
La mairie, alors, est aujourd'hui maître d'ouvrage, mais c'est tout.
Ben, il faut trouver maintenant.
Tout. Il n'est pas gestionnaire.
Mais non, il faut trouver la juste. Et là, bon, débat. Alors, comme il y a, comme pour Narbovia, une pléthore d'administrations autour de la table, hein, je crains qu'à la sortie, on voit arriver un tanker administratif plutôt qu'une frégate, quoi. Hein,
donc, et que ça donne une espèce de gros machin. Une fois de plus.
De gros machin, comme dans le style de celui qui va, là, tant pis, bon, je m'avance, quoi, qui va gérer le Narbovia, qui sera un EPCC, donc établissement public culturel, mais pas sous la forme industrielle et commerciale comme on aurait pu imaginer, mais sous la forme administrative. Ça va être une para-administration qui va gérer ce gros machin. Alors que je le rappelle, à Nîmes, hein, le musée qui est équivalent à Narbovia et peut-être même supérieur en, fait, en dynamique fait, et en moyen, lui est géré par une SPL, hein, d'une légèreté, d'une souplesse fait, et avec moyens, hein, qui est déjà parti à une vitesse bon, fulgurante et qui est en train de conquérir des parts de marché, bon, qu'on aura du mal à rattraper. Je ferme la parenthèse.
C'est la mairie, uniquement la mairie de Nîmes qui était derrière.
Exactement, hein, Nîmes et puis l'agglo. Enfin, l'agglo.
Hein, ouais. De plusieurs.
Il en faut deux, quoi. Hein, au moins deux, quoi. Hein, oui. Deux collectivités publiques. Hein, c'est
mais la
société publique
force,
locale.
C'est la mairie, quand même.
Exactement. Donc il y a l'agglo, en fait, de Nîmes et la mairie. Mais pour en revenir, en fait, au Grand Castelloup, j'entends dire. Alors il y a des échos qui me viennent. Hein, c'est le vent du Nord qui m'amène ce genre de petites infos. Que certains verraient assez bien une mutualisation, en fait, de la gestion avec le Narbovia. C'est-à-dire que certains voient. Je donnerai pas les noms, quoi, hein, mais certains voient la gestion de cet ensemble-là, qui a une vocation très particulière, quoi. Enfin, un musée écotouristique, c'est quand même pas Narbovia, quoi. Mais certains voient la gestion de cet écomusée de la maison de la forêt par la structure de gestion de Narbovia.
Oui, bon, serait ajouté de la lourdeur à la lourdeur.
En plus, mais ça n'a rien à voir, je veux dire, c'est deux niches différentes de marché, c'est deux surfaces de gestion, voilà, tout à fait différentes, c'est deux dynamiques faites dans la gestion fondamentalement différentes, elles aussi.
Et
qu'on ne se lance pas dans ce. Non, mais je veux dire pourquoi. Parce que ce qui me paraît clair, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout au clair, justement, dans les fondamentaux de cette affaire, et qu'il urge effectivement à la fois, un, de régler la rustine, et deux, effectivement, de penser fait, au futur de manière un peu plus efficace fait, et ordonnée. Si
voilà, et c'est sur cette question que nous marquons une seconde pause, après laquelle nous retrouvons notre invité du jour, Bertrand Malquier.